Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Rolly Tyler, dans le monde du cinéma, est le grand maître des effets spéciaux. Il peut vous montrer mille et une façons de mourir.
Coupez, coupez, les effets spéciaux sont formidables.
Au programme aujourd'hui, une émission consacrée aux effets spéciaux au cinéma, articulée autour d'une interview avec l'un des plus grands spécialistes en France des effets spéciaux au cinéma, le maquilleur David Scherrer, qui a officié sur les films d'Hélène Cattet et Bruno Forzani, par exemple, mais que l'on a pu aussi voir à l'œuvre sur Le Serpent aux mille coupures, Les Garçons sauvages, Tous les dieux du ciel, etc. etc. Il a une filmographie démentielle. D'ailleurs, on va en parler avec lui. En sa compagnie aussi, nous allons revenir sur la série de films FX, Effet de choc. C'est deux films qui sont sortis chez l'Atelier d'Images. L'équipe de Culture Prohibée, d'ailleurs, remercie Blanche Aurore Duo pour son aide sur cette émission. Avant d'aller échanger avec David Scherrer, maquilleur aussi bien par exemple sur les films de François Gaillard comme Blacaria, Lascares, que sur des grosses productions comme le dernier film de Xavier Beauvois, Albatros.
On demande à Rolly Tyler de passer de la fiction à la réalité.
Nous voulons organiser un simulacre d'assassinat, Rolly, et nous voulons que ce soit vous qui le supervisiez.
Qui ça, nous?
Le ministère de la Justice.
Je m'occupe d'effets spéciaux, je vends des illusions et je ne tiens pas à ce que ça change.
Nous nous sommes dit qu'on pourrait utiliser votre génie si particulier pour nous aider.
Et si on me tire dessus, qu'est-ce que je fais?
Vous serez protégé à 100%, vous ne risquez rien, vous avez ma parole.
Pour ce travail qu'on me propose, je vais dire oui.
On veut lui faire croire que ce n'est qu'un simulacre d'assassinat.
Tu n'as rien à te reprocher.
Et s'il avait mis de vrai mal? Si une personne, une seule personne, a des soupçons.
Désolé, Rolly, mais je ne veux pas laisser de traces.
Lipton mijote un mauvais coup. Il a essayé de me tuer.
Alors adresse-toi directement à la presse.
Comment veux-tu qu'il puisse me croire?
Je te crois bien, moi.
FX Effet de choc de 86 et FX 2 Effets très spéciaux de 91. Le premier est réalisé par Robert Mandel, le deuxième par Richard Franklin. Richard Franklin, c'est pas n'importe qui, puisque c'est quand même le réalisateur de Link, par exemple, de Psychose 2. Enfin, c'est un réalisateur très, très apprécié des fantasticophiles et des amateurs de films à suspense. Il avait même eu le grand prix à Voria, si ma mémoire est bonne, pour Patrick. Mais on va d'abord parler du premier qui est mis en scène par Robert Mandel. Alors, ce premier film fixe un peu la règle des deux films qui ont des histoires assez similaires et qui mettent en vedette, c'est une sorte de buddy movie en fait, qui met en vedette Brian Brown, qui est un acteur qu'on a pu voir par exemple dans Gorille dans la brume, qui est un acteur australien et qui, dans cette série de films, fait un concepteur d'effets spéciaux. Donc c'est tout un délire autour des effets spéciaux. Il y a plein de choses assez hallucinantes. Par exemple, il y a une sorte de créature horrible qui vous ouvre la porte quand vous entrez chez lui. Voilà. Enfin, il y a plein d'idées comme ça dans le film. Et il est accompagné, c'est une sorte de buddy movie où il est accompagné de Brian Dennehy. Brian Dennehy, respect, acteur génial, voilà, qu'on adore, cet acteur américain. Que Bon, tout le monde connaît pour un rôle, mais il a fait plein de super rôles, hein, en particulier, je pense, c'est John Flynn, par exemple, mais tout le monde le connaît pour un rôle qui est celui du shérif très, très méchant du premier Rambo, voilà, où il est exceptionnel, comme d'habitude. Mais là, il est gentil dans cette série de films. Il est sympathique. Il est un peu borderline, il aime beaucoup le whisky, mais qui peut lui en vouloir, mais il est quand même plutôt sympathique. Alors, l'histoire est simple, hein, celle de Rolly Tyler, technicien d'effets spéciaux à Hollywood. Le département de la justice le contacte pour mettre en scène le faux meurtre d'un important témoin, histoire de mettre ce meurtrier à l'abri. Seulement, il se rend compte très vite qu'il est tombé dans une machination. Ses proches, certains vont perdre la vie, il va se retrouver piégé. Et en fait, c'est un truc, il est pris, pourchassé par la mafia. Et évidemment, il va essayer de se défendre avec ses techniques qu'il a acquises sur les tournages en tant que maître des effets spéciaux. Et parallèlement, parce que le premier est un buddy movie, un vrai faux buddy movie, parce qu'ils se retrouvent très peu, hein, dans le film, les deux loustiques. Et parallèlement, Brian Dennehy, lui qui est un flic incorruptible, évidemment, un vrai, un pur, un dur, lui, il va enquêter là-dessus, il va dire, il y a un truc pas clair. Ce mec qu'on nous présente comme un coupable, il a tout du coupable idéal, voilà. Puis il a dû voir beaucoup de films d'Hitchcock aussi, je pense aussi, les scénaristes aussi. Donc il se décide de mener l'enquête et de devenir en quelque sorte l'acolyte de Rolly Tyler. Bon, évidemment, les deux hommes vont mener l'enquête au prix de nombreuses péripéties, de nombreuses scènes d'action. Et Rolly Tyler va utiliser ses techniques d'effets spéciaux pour réussir à piéger les méchants.
Je m'appelle Léo. On a parlé tous les deux.
Mais où êtes-vous, Tyler ?
Il doit utiliser tous les trucs dont il s'est servi dans ses films.
Rappelez-vous mon génie si particulier.
Pour se venger. Et en sortir vivant.
Je suis à la poursuite d'un camion bleu avec deux lettres sur le côté. F comme Franck et X comme Xavier. Tu te souviens le film La Grande Glissade ?
Et comment ?
L'esquisser !
Vous n'êtes qu'une ordure. Vous nous avez possédé, Rolly.
Mais Rolly Tyler leur réserve encore un très bel effet spécial.
Vous oubliez pourquoi vous m'avez engagé ?
Et maintenant !
Au prochain carrefour, tu balances le mannequin ! Mais qu'est-ce que vous faites ?
Est-il l'agresseur ou la victime ? Ce meurtre, est-il réel ? Ou est-ce un effet de choc ?
Ça va donner un film assez rythmé, assez sympathique, avec une ambiance film noir dans les ambiances nocturnes. Robert Mandel, qu'on ne connaissait pas, hein, puisque c'était un réalisateur qui sortait un peu de nulle part, et surprend tout son monde. Il instaure une ambiance qui rappelle le film noir des années 50, très différente en fin de compte de ce qui pouvait être produit dans les années 80, et qui du coup donne une patine particulière au film, qui fait que le film est très agréable à revoir, très sympathique, le film va de péripétie en péripétie. Le seul défaut du film, peut-être, c'est de pas assez exploiter le côté effets spéciaux, maîtrise en effets spéciaux, qui sera beaucoup plus exploité dans le deuxième, où là, il y a tout le temps des délires autour des effets spéciaux, les trucs les plus improbables, dont dans le deuxième, d'ailleurs, une idée qui va être reprise dans Mission Impossible Protocole Fantôme de Brad Bird, le meilleur Mission Impossible réalisé à ce jour, hein, avec Tom Cruise, et une idée avec un faux décor qu'on déplie, tout ça, un trompe-l'œil, voilà, qui est une idée qu'on va retrouver un peu différente, hein, dans le film de Brad Bird, mais qui est utilisé. Dans le deuxième film, on reproduit la même formule. Alors, c'est assez étonnant parce qu'à la fin du premier film, les deux hommes ont empoché le magot et se sont barrés, ont disparu de la circulation, voire même ont changé d'identité. Dans le deuxième, ils reviennent un peu comme si tout cela n'avait pas changé. Et Rolly Tyler, lui, il fait aujourd'hui des jouets. D'ailleurs, il y a un clown un peu étrange qui va rappeler quelque chose aux fans de Stephen King, un clown animé qui intervient plusieurs fois dans le film. Et puis, l'ex-mari de sa copine vient le chercher pour aller traquer un serial killer, pour piéger un serial killer grâce à l'utilisation du faux semblant dans une scène de douche à la Psychose, voilà, revisité par Richard Franklin, car Richard Franklin a quand même réalisé Psychose 2 et vu son style de mise en scène,
complètement fasciné par Hitchcock, ça paraît évident. Le deuxième film, autant il est ultra prévisible parce qu'il est, au niveau de l'écriture, c'est presque un copier-coller du premier parce qu'évidemment, notre concepteur d'effets spéciaux, là, il remet le nez dedans, il se fait piéger à nouveau et il est traqué, évidemment, par ce tueur. Tout cela nous amène dans l'univers de l'illusion, tout ça nous amène dans les faux-semblants, et il va reconstituer son équipe de choc, parce qu'il est dans la mouise, donc il va aller rechercher Brian Dennehy, et là on va être dans le pur buddy movie, jusqu'à un final assez fun et décomplexé, mise en scène, alors on va pas retrouver le Richard Franklin angoissant et tout de ses meilleurs films, mais mise en scène par un Richard Franklin qui nous fait un petit truc assez décontracté, et puis surtout c'est un film de 91, mais on se croit encore dans les années 80 avec Richard Franklin. Même si ce film souffre un peu de cette photographie un peu baveuse là, qu'il y avait dans tous les films des années 90, un peu étrange. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, je trouve qu'ils ont une patine toujours un peu étrange. Alors, il faut savoir que cette série de films très sympathiques, qu'on vous recommande vivement, vous avez passé un super moment, est une série de films qui a donné lieu à une série télé. C'est vraiment un film qui a super bien marché. La série télé s'appelle FX Effets Spéciaux. Il y aura deux saisons. Et ce sera, d'ailleurs, ça a été diffusé en France. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était sur M6. Voilà. Mais je vous conseille donc ces deux films, sortis comme d'habitude dans des très belles éditions chez l'Atelier d'Images, avec en particulier un bonus où Alexandre Poncet présente très très bien en fait, l'univers des effets spéciaux et le film en lui-même, voilà, le premier. Ça, c'est très intéressant. Mais bon, nous, on a décidé, pour parler de ce film, mais aussi pour parler des effets spéciaux, de se tourner vers un vrai spécialiste des effets spéciaux, puisqu'il lui-même, il fait des effets spéciaux. Il a travaillé sur plus de 200 productions, donc c'est un stakhanovice des effets spéciaux. Il travaille pour la télé, pour le cinéma. Bon, de tout ça, on va parler avec lui tout de suite. Je vous propose de retrouver donc David Scherrer, l'illustre David Scherrer, au micro de Culture Prohibée. Bonjour David Scherrer.
Bonjour Jérôme.
Tu es maquilleur, tu es concepteur d'effets spéciaux français, tu as une filmo démente, hein, on va y revenir, plus de 200 métrages si on compte les courts. Récemment, tu as travaillé sur Albatros de Xavier Beauvois, Ultra Pulp de Bertrand Mandicot, dans un tout autre genre, Louloute du Berviel avec leur Calami. Mais dis-moi, David, c'était quoi ton enfance? Tu disais quoi à tes instituteurs? Tu disais, quand tu étais à Strasbourg, à l'école, tu leur disais quoi? Tu disais, je veux être maquilleur plus tard pour le cinéma?
Avec mes instituteurs, ça s'est très bien passé. J'avais même pas d'idée à l'époque. Je voulais travailler dans la paléontologie. Ça c'était mon fantasme quand j'étais tout gosse. Je voulais refaire des squelettes de dinosaures. En fait, je me suis vraiment intéressé au cinéma à partir du moment où je suis entré au collège, où j'ai commencé à découvrir les films sur Canal+. Les films d'horreur du samedi soir, ça c'était la tradition, on pouvait me les enregistrer, j'avais mon parrain en fait qui m'enregistrait sur VHS les films qui passaient, tous les films d'horreur qui sont passés sur Canal de la grande époque, et en fait ça m'a donné envie de travailler dans le cinéma, pas spécialement dans les effets spéciaux au début, mais vraiment dans le cinéma et si possible du cinéma fantastique ou du cinéma d'horreur. Et je me suis rendu compte assez vite, malheureusement, que ça pouvait être un peu compliqué, qu'on faisait pas vraiment, on va dire, de films d'horreur et de choses comme ça en France. Et c'est en fait qu'à partir du lycée, où ça a commencé à dévier vers le métier des effets spéciaux, où je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait exister comme profession ? Où je puisse donc faire quelque chose, bien sûr en rapport direct avec le cinéma et même un peu le cinéma fantastique, où je puisse me renouveler tout le temps, parce que moi je suis malheureusement quelqu'un qui peut se lasser très vite, donc refaire tout le temps la même chose, ça je trouvais que c'était pas très intéressant, et aussi qui me permettrait de voyager, parce que ça c'était aussi un peu le rêve secret de me dire oui c'est super aussi si avec le boulot on peut aller pourquoi pas dans d'autres régions ou dans d'autres pays, c'est encore mieux. Donc c'est en fait de là que j'ai décidé d'essayer de creuser dans cette voie.
Et ta formation technique, c'est quoi alors? Parce qu'effectivement, tu es un passionné, on a compris, de cinéma fantastique, gore. Mais c'est pas évident, parce qu'en France, bon, on avait Benoît Lestang, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais on avait très peu, en fait, de personnes capables de former d'autres personnes. Enfin, c'était compliqué quand même de se former en France.
Alors, tout à fait, d'autant plus que ma formation, ben, elle n'a pas trop grand-chose à voir, parce que j'ai fait de la sociologie. Donc ça c'est un peu, voilà, c'est pas réellement directement lié, voilà, au maquillage d'effets spéciaux. Mais en fait, je me suis formé sur le tas, tout simplement, très naïvement, très candidement, voilà, à essayer des techniques, ce que j'avais vu dans des bouquins, à l'époque, quand je voulais commencer au tout début 2000, il n'y avait pas encore tous les tutos sur Internet, tout ça. Donc, bah, c'était de la recherche, c'était essayer de bricoler avec du latex, avec du faux sang, tout ce que je pouvais trouver. Et en 2000, je crois que c'était en 2004, j'ai rencontré en fait un maquilleur qui aujourd'hui ne travaille plus dans le maquillage d'effets spéciaux. Il s'appelle Dominique Lyon. Et en fait, c'est lui qui m'a fait faire un peu mon premier tournage véritablement pro, on va dire, où j'ai pu être sur un tournage. À l'époque, je me rappelle, ça s'appelait Le Bon, la Brute et les Zombies d'Abel Ferry. C'était tourné en 35 mm, alors en plus, pour moi, c'était complètement fou. Le plateau était énorme et tout. Il y avait déjà d'autres maquilleurs. Il y avait Jacques-Olivier Molon, entre autres. Et du coup, moi, ça m'a permis de voir un peu leur méthode, de voir un peu comment ça se passait, vraiment d'essayer de comprendre au mieux. Moi, j'étais évidemment totalement débutant, donc forcément d'être confronté comme ça à des gens qui avaient déjà un pied dans le milieu, bah, évidemment, ça, c'est extrêmement stimulant artistiquement. Et après, par la suite, bah, voilà, une expérience en amenant une autre, ça m'a permis voilà, de d'évoluer petit à petit. En fait, c'est ça, j'étais pas, on va dire, spécialement pressé. Je me suis dit, ça sert à rien d'essayer tout de suite de vouloir viser des gros projets, parce que je ne serais de toute façon pas capable de les tenir, de les faire. Donc, bah, tâchons d'évoluer au fur et à mesure. Et après, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. J'ai pu commencer à un moment à faire un peu de télé, puis ça m'a permis, voilà, d'avoir accès à d'autres projets, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui. Ou de toute façon, je considère qu'encore aujourd'hui, forcément, tu apprends toujours des choses, tu t'évolues toujours, tu as des nouvelles envies, voilà, c'est en perpétuelle évolution le truc. Et c'est aussi ce qui rend le truc passionnant.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai eu la chance. Bon, nous, on s'est rencontrés. J'ai rencontré Jacques-Olivier Molon aussi, qui est un type adorable.
Voilà. Les
maquilleurs sont sympas. Ça, faut le dire, faut monter. On disait les routiers sont sympas. Je ne sais pas, mais les maquilleurs sont très sympas. Pourtant, ils produisent des horreurs à l'écran, mais ils sont très sympas. Et justement, c'est bon, vous n'êtes pas très nombreux, vous connaissez tous, je suppose. Mais lui, il fait comme toi. C'est-à-dire que je constate que vous bossez tous en alternant petit budget, gros budget, séries télé, même des grosses séries télé. Hein. Je pense aux grosses séries TF1 et tout sur lesquelles tu travailles. Lui aussi, il fait lui aussi France Télévisions, tout ça. C'est parce que vous n'avez pas le choix, ou c'est parce que c'est comme tu dis à l'instant, c'est-à-dire c'est vraiment par désir d'apprendre, de rencontrer plein de types de productions, plein de types de médias, voilà.
Ah, c'est moi, ça a évolué dans le sens où c'est totalement par choix. C'est-à-dire que, comment dire, moi, il faut absolument que je puisse faire, entre guillemets, de tout. Il faut que je puisse, je ne pourrais pas, par exemple, ne plus faire de micro-budget comme je faisais tout au début, et parce que c'est les moments, on va dire, où artistiquement, tu es dans le meilleur état, si j'ose dire, parce que t'as peut-être pas d'argent, mais ça te force à réfléchir. Ce sont des projets qui ne sont faits qu'avec des passionnés, parce que justement, comme t'as pas d'argent, bah, il faut que ce soit des mecs hyper passionnés. Il faut que ce soit des mecs qui aient vraiment envie de mener le projet au bout, sinon ça se casse la figure très vite. Et du coup, pour moi, ces projets, ils sont essentiels. Je pense par exemple les films de François Gaillard. Ça, c'est un gars, je lui dis toujours, il peut m'appeler demain, il m'appelle lundi soir, mardi matin, je suis chez lui avec une petite trousse de maquillage, et puis on peut y aller, on peut commencer, on peut faire des trucs. Et à côté de ça, les gros budgets ou les grosses séries, ben, finalement, je me suis rendu compte que ça correspondait aussi à des choses, moi, qui m'intéressaient. Dans le sens où, par exemple, là, ça va d'ailleurs être, je crois que c'est diffusé, je crois pas, je suis sûr d'ailleurs, le 19, la nouvelle série qui va passer sur TF1 qui s'appelle Les Combattantes, c'est une série qui se passe en 14-18. Et depuis quelques années, moi j'avais toujours envie de faire un projet qui se déroule pendant la guerre. Et je me suis dit, c'est évidemment, c'est dû au fait qu'un soir j'ai découvert Le Soldat Ryan, qui m'a qui m'a traumatisé comme tout le monde. Et je me suis dit, mais punaise, j'aimerais vraiment une fois faire un projet avec ce contexte, le contexte de guerre, le type d'effet que ça implique, ce traitement très premier degré. Et j'ai eu la chance de faire cette série. Donc même si c'est de la télé, c'est très très important et ça correspond vraiment à des envies.
Écoutez David Scherrer au micro de Culture Prohibée. Tu as commencé à travailler dans les années 2000, donc tu as grandi, je suppose, aussi un peu avec Mad Movies, où il y avait une rubrique sur les effets spéciaux. Voilà. Quels sont tes maîtres, quelles sont tes influences en matière de maquillage? Je suppose que ça vient d'outre-Atlantique, mais bon, voilà.
Alors en fait, j'en avais deux, malheureusement, qui sont partis tous les deux. Bah, c'était Benoît Lestang. C'était Benoît Lestang, et l'énorme regret que j'ai, c'est que j'ai malheureusement jamais pu le rencontrer. Et c'est quelqu'un, en fait, dont l'état d'esprit me passionnait. Et aujourd'hui, pour avoir bossé avec pas mal de gens qu'il connaissait, il me disait justement, il me parlait surtout de la personne. Et ça, pour moi, c'est essentiel, la personnalité de quelqu'un, plus encore que l'aspect technique. Et à chaque fois, j'entends que c'était effectivement un passionné incroyable, que c'était quelqu'un qui avait une grande sensibilité, qui adorait vraiment son métier, qui adorait le cinéma. Et ça, ce sont des choses qui me touchent beaucoup. Et le deuxième, c'est Gianetto De Rossi. C'est le maquilleur italien qu'on connaît, on va dire, pour avoir fait les films les plus gore de Lucio Fulci, les L'au-delà, L'enfer des zombies, La maison près du cimetière aussi, mais qui a aussi fait Haute Tension, qui a fait des effets gore incroyables dans Haute Tension, mais qui, pareil, je connaissais son boulot par les films de Fulci, mais lors d'une interview, c'était la belle époque où il y avait les bonus DVD Neo Publishing. Ils avaient fait un super coffret sur L'enfer des zombies et il y avait un entretien avec lui. Et en fait, l'écouter parler, je découvrais un mec très tranquille, très posé, qui expliquait ce qu'il faisait avec beaucoup de recul, qui acceptait le côté système D, bricolé, qui disait on n'avait pas d'argent, on utilisait un peu des prothèses en latex, de l'argile, des choses comme ça. Et je me disais, c'est incroyable, un type pareil, qui avait déjà un certain âge, qui a effectivement une filmographie incroyable, parce qu'il a bien sûr pas fait que des films d'horreur et tout ça, mais je trouve qu'il avait un discours qui, moi, me plaisait énormément, où, voilà, il comprenait parfaitement le système D, il savait l'utiliser, alors que c'est un type, il a, par exemple, il a travaillé sur « Il était une fois dans l'Ouest ». Il a travaillé sur le maquillage de Henri Fonda, pardon, quand il y a la séquence de flashback avec le Charles Bronson et son frère qui est pendu, on voit Henri Fonda rajeuni, puisque Henri Fonda avait 60 ans quand il a tourné « Il était une fois dans l'Ouest ». Et quand on le voit dans cette séquence de flashback, son look est incroyable. Et ça fait partie de tous ces trucs de maquillage très subtils que Giannetto De Rossi maîtrisait aussi bien que les effets gore extrêmes. Et ça m'a toujours beaucoup inspiré, parce que déjà il est italien et que je suis absolument fou du cinéma italien en général, et du cinéma italien horrifique aussi en particulier, mais que c'était quelqu'un qui avait vraiment une large palette, qui pouvait un peu tout faire. Et de là, je me suis dit, mais ce serait vraiment intéressant si je pouvais arriver à faire justement, à faire des choses sur plusieurs types de métrages. Pas juste forcément des films très gore, avec des gorges arrachées ou qu'est-ce que j'en sais, mais aussi justement des fois des films, comme tu citais, par exemple, le film de Mandico, ou le film Louloute, justement, où c'est pas réellement des effets gore, c'est des effets un peu plus étranges. Donc, on va dire que voilà, c'est vraiment De Rossi et Lestang qui m'ont... je dirais pas qu'ils m'ont dicté ma façon de faire, mais qui m'ont complètement inspiré et qui voilà, m'ont un peu donné la marche à suivre par rapport au cinéma en général. C'est vraiment mes deux vraies sources d'inspiration.
Bah c'est très intéressant ta réponse, parce que la plupart des maquilleurs répondent par Dick Smith, par des maquilleurs souvent anglo-saxons, et toi, oui, tu t'inscris vraiment dans cette tradition latine. Alors je comprends mieux du coup pourquoi François Gaillard, et puis qui a fait Black Aria, Lascaris, qui réalise des purs giallo, pourquoi tu vas tout de suite travailler avec lui en fait.
Mais tout à fait, tout à fait. Il y a la façon de faire, effectivement, l'aspect système D, mais il y a aussi l'amour pour ce type de cinéma, pour le giallo. Je dis toujours, le giallo, c'est le plus beau, peut-être un des plus beaux genres cinématographiques existants, parce que dans le giallo, tu vas toujours trouver une petite pépite, un vrai moment de cinéma que tu n'auras jamais vu ailleurs. Même si c'est une séquence, si c'est deux plans, tu as toujours des vraies fulgurances. Et ça, je trouve, c'est hyper intéressant quand tu t'intéresses au cinéma, d'avoir comme ça des moments cinématographiques très impactants. Ça, c'est aussi quelque chose que je recherche, d'où encore une fois le fait de vouloir faire des genres de films et des types de créations très différentes. Par exemple, je ne serais pas du tout, je pense, demain tu m'appellerais, tu me dirais, tu vas faire Walking Dead, la nouvelle saison, tu as 60 jours de tournage avec des zombies. Mais je ne suis pas certain que ça, ce soit vraiment quelque chose qui m'intéresse, et surtout quelque chose dans lequel je serais vraiment, on va dire, vraiment au top, vraiment capable d'optimiser le truc. C'est moi, on va dire, ma recherche cinématographique ou artistique. Un giallo, quelque chose dans le genre, ou un polar, par exemple. Un polar façon La Grande Époque, façon Casino, ou même un polar, encore mieux, façon Police Python, de Corneau avec Yves Montand. Ça, c'est tout à fait le genre de projet, entre guillemets, fantasme pour moi. Ça, c'est exactement le type de projet sur lequel j'ai envie de travailler. Mais par exemple, pas un Star Wars ou un Star Trek où on me dirait tu peux faire 50 sortes d'extraterrestres. Ben, voilà, bizarrement, après, ce sont des questions de goût, bien entendu, et c'est en aucun cas, naturellement, c'est pas du tout une critique de ce type de film, loin de là, mais moi, c'est moi quelque chose qui va me parler. Moi, c'est moi quelque chose qui va me donner envie. Voilà.
Ah, mais ton rêve, c'est un bon vieux polar à la Verneuil ou à la Deray.
Exactement. Mmh.
Ah, c'est rigolo.
Exactement. Bah, Peur sur la ville étant un de mes films, j'allais dire un de mes films français préférés, j'ai même un de mes films préférés tout court.
Bah, ce qui flirte fortement avec le giallo, d'ailleurs.
Mais complètement, c'est une coproduction italienne, c'est pas pour rien. Tous les passages avec Minos, l'étrangleur, ça c'est typiquement des moments de giallo. Le mec, il met des gants en cuir, il a un traumatisme lié à son œil de verre. Alors là, t'es complètement dans le giallo, et même, je dirais encore plus, au Poliziesco, parce que tout le début du film, la traque de Belmondo avec Marcucci, le gangster, celui qui a fait le hold-up de la banque, ça, c'est typique le Poliziesco des années 70.
Et d'ailleurs, toi, au cinéma, enfin, qu'est-ce que tu as vu en termes d'effets spéciaux qui te paraît une sorte de summum, une sorte de nirvana, voilà, que tu as vu dans un film et tu as dit « Putain, le mec, mais comment il a fait ça? C'est énorme voilà. !» Est-ce que, je suppose que ça t'est arrivé plusieurs fois.
Alors, ça dépend. Alors, la réponse ultra bateau, ça, c'est ce que tout le monde dit, et c'est normal parce que le film est, non seulement le film est incroyable, mais bien sûr, ses effets sont incroyables. C'est The Thing de Carpenter avec toutes les transformations, toutes les créatures imaginées par Rob Bottin, ça, évidemment. Dans le même registre, Hurlement, que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, m'a aussi fait cet effet dans le sens de l'imaginaire et de l'impact de la transformation dans l'histoire. Après, je me rends compte que ce n'est pas véritablement le boulot d'effets spéciaux qui va me marquer, c'est la façon dont c'est utilisé dans le film. Je te parlais de Casino, de Scorsese, ça c'est un film qui m'a énormément marqué, notamment pour sa fin, quand les deux pauvres gars sont littéralement explosés à coups de batte dans le champ de maïs. Ça, c'est vraiment un passage qui m'a profondément marqué, parce que j'ai compris comment Scorsese, il arrivait tout d'un coup à te donner de l'empathie pour des personnages qui, en fait, sont des vrais salopards. Et du coup, t'es quand même choqué par leur mort, qui est absolument dégueulasse. Et ça, je trouve que ça passe tout autant par la mise en scène, même plus, que par le maquillage proprement dit. Même si effectivement c'est très impressionnant, c'est très gore, c'est très sanglant, tout ça. Mais voilà, c'est pour moi, j'arrive pas trop à séparer l'effet spécial de la mise en scène. Donc, véritablement quelque chose qui m'est vraiment, vraiment marqué, ça pourrait être des toutes petites choses, des tout petits effets. Bon, parler de Dick Smith, moi je pense au. Il y a certains effets gore dans Marathon Man qui sont hyper impactants, mais voilà, qui sont totalement dans le propos du film et dans la narration. Après, en termes de créatures ou de choses comme ça, bah, j'ai pas vraiment de souvenir non de choses qui m'est vraiment remué quoi. Il faudrait que je ou alors comme dit ça va être des choses liées dans des films des années 70, les effets dans les films d'Argento ou de Fulci, mais pour les mêmes raisons que je t'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que Argento, quand il filme ses meurtres dans Ténèbres, il les filme d'une certaine façon. Il leur donne un impact particulier, il esthétise certains moments, il est très cru dans d'autres moments. Enfin voilà, il y a toute une logique de mise en scène derrière qui fait que c'est des moments hyper impactants. Et en tout cas, pour moi, hyper efficaces.
Thank you.
écoutez le maquilleur David Scherrer au micro de Culture Prohibée. Dans tout ce que tu as fait, y a-t-il quelque chose que tu considères vraiment comme un summum? Ou là, tu t'es épaté toi-même, quoi. Tu t'es dit, là, cet effet, il est quand même, il fonctionne rudement bien.
Ça, c'est très, très, très difficile parce que je vais avoir tendance à être hyper critique forcément sur ce que je fais, mais on va dire, dans les films d'Hélène Quintet et Bruno Forzani, je trouve l'impact général vraiment réussi. Je trouve que dans L'étrange couleur des larmes de ton corps, il y a vraiment des moments, il y a des moments qui sont extrêmement étranges, qui sont suresthétisés, qui sont dérangeants, qui sont hyper poétiques. Enfin, il y a plein de choses et j'ai l'impression que j'ai réussi à plutôt bien m'adapter dans leur univers, dans l'état d'esprit un peu giallo méta. Et dans Laissez bronzer les cadavres aussi, il y avait un moment, c'est rigolo, quand la policière elle reçoit une balle dans l'œil, on s'était dit, il faudrait en fait que le résultat, ce soit par exemple un peu comme dans un western de Sergio Corbucci. Et j'ai eu un peu cette impression quand j'ai découvert le film en salle. J'avais vraiment le moment... Ouais, des fois, j'avais l'impression effectivement de voir un film de Corbucci début 70 avec le même grain de l'image, le même aspect, le sang un peu dégueu, un peu noir. Et ouais, je me suis dit, ok, je pense qu'on est pas mal. On a réussi à faire quelque chose qui est assez sympa.
De leur part, je suis étonné, la référence, c'était pas la balle dans l'œil de Daria Nicolodi dans Opéra.
Ça aurait pu aussi, j'avoue. J'avoue, ça aurait pu. Après, dans Opéra, c'est vrai qu'elle est... Elle est beaucoup plus longue, la séquence, avec la balle qui traverse le Judas, il y a du ralenti. Là, en fait, elle est très... Dans Laissez bronzer les cadavres, c'est hyper sec, c'est hyper cut, c'est très inattendu. Donc, je vois, c'est certainement un mélange des deux. Je pense qu'il y a peut-être effectivement une esthétique Argento et puis un impact façon western spaghetti. Peut-être. La vérité est peut-être entre les deux.
Ouais, certainement. Alors, tu le dis depuis le début de cet entretien, tu as travaillé avec... des metteurs en scène qui venaient d'univers très différents, certains d'ailleurs certainement pas du tout familiers avec les effets spéciaux. Alors, pour faire vite, hein, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a Quarks, par exemple, il y a Xavier Beauvois, Gaspard Noé. Comment on travaille avec ces différents metteurs en scène? Comment ça se passe? Parce que certains doivent être, je pense, plus impliqués dans la conception des effets spéciaux, d'autres beaucoup moins.
Oui, ah oui, complètement. Complètement. Alors ça, c'est... Là, ça pourrait durer 6 heures. Je pourrais te faire une interview en 5 ou 6 tomes. Parce que, par exemple, tu parles de Quarks. Par exemple, Quarks, c'est quelqu'un que je connais déjà depuis plusieurs années. On a fait des courts-métrages ensemble. Après, j'ai fait son court-métrage en Ciel bleu presque parfait, qui s'est transformé en Tous les dieux du ciel. Là, au mois de mars, j'ai fini aussi, j'ai travaillé sur son dernier. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure des années, voilà, on communique de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement. Lui, il comprend ces choses-là. Le truc, c'est que quand tu as un réalisateur qui comprend les effets spéciaux, qui comprend les limites, les possibilités, après, ça devient beaucoup plus simple. Après, tu peux... ou faire des propositions en série télé. Ben, je pense par exemple au Bazar de la Charité, la femme qui est défigurée, qui est brûlée, j'ai fait juste un petit schéma, une sculpture, et on a fait un test de maquillage. Mais le réalisateur, Alexandre Leroy, il avait des indications, certes, qui étaient précises sur ce qu'il voulait raconter, mais après, si tu veux, pour l'exécution proprement dite, il te laisse carte blanche pour l'apparence de la brûlure, un peu la couleur et tout. toi, t'es un peu libre de faire ce qui semblera le plus adapté. Quarks, par exemple, quand on faisait Tous les dieux du ciel, lui, ses créatures, il avait vraiment des dessins précis. Je pense au... Il y a un moment où Jean-Luc Couchard, il va se regarder dans la glace, et à la place de sa tête, tu as une espèce de... On avait surnommé ça la tumeur, cette espèce d'horrible tête, tu dirais une espèce de pomme de terre mutante, pleine de veines et tout. Et ça, en fait, il avait un dessin, il avait fait faire un concept art qui était très précis, et il voulait absolument ça. Même si je lui disais, bon, ah, peut-être un peu compliqué, la forme, je sais pas, il faut voir. Non, non, qui m'a dit, essaye vraiment de t'en rapprocher le plus possible. Donc tout ça pour dire que finalement, je pense que le truc, c'est tu t'adaptes à l'univers général du film. Et c'est des discussions, effectivement, avec les réalisateurs. Parfois, sur des séries télé, ils ont, il faut le dire, pas de demande ultra précise. Ça peut arriver des fois qu'ils ont juste besoin d'un cadavre, genre le mec a pris une balle dans la tête ou il s'est fait trancher la gorge, donc ça, tu viens, tu le fais le jour même et il te corrige éventuellement, Réa te dit mais bon, un peu plus de sang ou un peu moins, mais c'est effectivement, ça se fait beaucoup plus rapidement sur le plateau même. Et à côté de ça, oui, t'as des Réa comme Bandico, lui pareil, il va te faire des dessins. Il va te faire des dessins, il va même participer à l'élaboration artistique du truc. Xavier Beauvois, lui, nous a carrément fait bosser avec un toubib. On avait carrément un médecin qui, pour son film, si tu veux, devait avoir un écoulement de sang, quelqu'un qui s'était pris une balle qui avait touché l'artère fémorale. Et donc, du coup, voilà, il y avait un médecin qui était là, qui m'expliquait. Alors, le sang, il sera plus clair, ça va s'écouler à peu près à telle vitesse. Le gars, genre, il sera allongé par terre parce qu'il n'aura plus la force de se relever. Enfin, justement, que des détails hyper réalistes, parce que l'approche de Xavier Beauvois sur son film, elle était quasi documentaire. Il n'y avait pas d'esthétisation de la violence, il n'y avait pas de côté gore, on était vraiment dans une représentation de la réalité. Et ça, du coup, c'était très, très, très intéressant de pouvoir passer justement des films d'Hélène et Bruno, où là, tu es dans des représentations même parfois fantasmées, je pense à Laissez bronzer et les cadavres, où il y a beaucoup d'effets qui sont volontairement, naturellement, surréalistes, avec des giclées d'or fondu, où le sang est remplacé par de l'or, et inversement. Et là, d'un coup, tu vas tomber sur un réalisateur qui, lui, aura une approche mais complètement réaliste, quasi naturaliste dans sa façon de filmer, dans sa façon d'aborder son histoire. Et du coup, oui, c'est hyper intéressant parce que au final, je suis autant intéressé par le cinéma que par le maquillage d'effets spéciaux. C'est pas, finalement, je vais jamais vouloir faire un film juste pour ma partie. Il faut aussi que, forcément, l'univers du réalisateur m'intéresse, sa façon de raconter l'histoire, etc., pour que je puisse vraiment m'impliquer dans le truc. D'où, encore une fois, le pourquoi je suis tellement du côté de mecs comme François Gaillard et toute cette génération, comme ça, il y a une nouvelle génération qui arrive, comme ça, de jeunes gars qui sont amoureux fous du cinéma, qui ont envie de tout donner, et comme ça, de faire des projets qui, souvent, sont pas hyper, hyper fortunés, loin de là, mais il y a tellement d'envie, tu te dis, bon, c'est aussi le passionné de cinéma qui parle, donc t'as vraiment envie de les aider, t'as vraiment envie de faire quelque chose avec eux.
vous écoutez David Scherrer au micro de Culture Prohibée. Il y a aussi des types qui sont super, hein, qui sont de vrais fans de fantastique, de vrais, et puis qui se dirigent vers la télé. Je pense à Olivier Abou, avec lequel tu as travaillé, par exemple.
Oui, absolument, absolument.
Ce devait être intéressant aussi, parce que lui aussi, il a un univers très, très particulier, quand même.
Ah, il a un super univers. C'était juste un tout petit peu dommage. La production m'avait contacté très, très tardivement quand on avait fait Maroni. La première saison, malheureusement, on n'avait pas pu faire vraiment tout ce qu'il avait en tête. C'est un peu dommage, mais ça, sont hélas des histoires des fois reliées aussi aux décisions de production. Et je me rappelle, j'avais eu à peine 3 semaines pour tout préparer avant d'expédier des faux cadavres. Je crois que c'était en Guyane. J'avais pas pu me rendre non plus sur le plateau. Donc ça, c'était forcément un peu compliqué. Mais c'était quand même effectivement très intéressant, au moins d'avoir pu rencontrer le gars, d'avoir pu un peu discuter avec lui, évidemment. Mais ça montre aussi, voilà, que sur toutes tes expériences, sur tous les projets, bah des fois il y a des petits couacs involontaires, mais qui sont aussi dus, bah voilà, la réalité de production, la façon de faire des films, de les préparer, de les organiser, et des fois on peut pas forcément faire tout ce qu'on voudrait vraiment, il faut aussi s'adapter.
Oui, bien sûr. Bah après, il y a les différences de budget, tout ça. Je pense aussi à un type que j'ai rencontré plusieurs fois et qui est quand même un type adorable, mais qui est quand même bien barré, qui a un univers bien à lui. C'est Richard Stanley, quand même, où tu as pu en plus faire quelque chose de très Lovecraftien sur The Theater Bizarre, où tu as pu en plus t'éclater à faire quelque chose peut-être qui se rapprochait plus de Gianetto De Rossi, si je pense en plus l'aspect créature étrange, freudienne un peu.
Oh, bah, totalement. Totalement, ça c'était incroyable, c'était bizarre parce que effectivement, il y avait très peu d'argent, il y avait peu de temps de prépa. C'était d'ailleurs, c'était la personne qui m'assistait était aussi dans le costume de monstre. Et effectivement, c'est très Gianetto De Rossi, ne serait-ce que la présence de Catriona McCall, ça c'était incroyable. Déjà le fait d'avoir, je me rappelle d'un moment sur le plateau, il y avait il y avait Catriona McCall, il y avait, je crois que Simon Boswell était venu, il y avait donc Richard Stanley, Carrie Mussel, enfin, que des gens avec un univers et une carrière dans le cinéma bis même, qui sont hyper intéressants. Et du coup, il y a beaucoup de choses, en fait, non pas beaucoup, en fait, tout est bricolé dans Théâtre Bizarre. Mais on l'a fait vraiment dans cet esprit. Pour moi, c'était... Effectivement, il y a un côté très Gianetto De Rossi, mais il y a un esprit ici comics, mais à mort, avec les couleurs, même la thématique, la vision de la sorcière, c'est vraiment une sorcière de bande dessinée, entre guillemets, avec Catriona qui avait une espèce de châle noir, des espèces de mains palmées, de griffes à un moment qui apparaissaient, la forêt avec le brouillard, les crapauds, enfin... C'était en soi, c'était complètement incroyable. Et c'est vrai que Richard Stanley a une personnalité, un univers complètement fou. Donc en soi, c'est déjà super, ne serait-ce que de pouvoir participer au projet. Donc après, en plus de ça, tu peux développer le système D à fond quand tu es sur un projet comme ça. C'est vraiment un excellent souvenir.
Alors, ce qui a motivé notre rencontre d'aujourd'hui, puis j'ai eu envie de faire une émission autour des effets spéciaux. C'était aussi la ressortie de FX Effet de choc 1 et 2. Il y avait FX Effet de choc en 86, FX 2 Effets très spéciaux en 91, le premier de Robert Mandel, le deuxième de Richard Franklin. Est-ce que toi, tu as un souvenir un peu de ces films-là? Je dirais pas donné envie de faire des effets spéciaux, mais en tout cas, est-ce qu'ils t'ont bien éclaté lors de leur sortie?
Alors oui, moi je me rappelle, je crois que j'ai des découvertes en VHS, je me rappelle qu'à la fin du premier, il y avait la musique, c'était, il me semble, le titre Just an Illusion, j'ai oublié le nom du groupe.
C'est bien ça. Désolé, mais ça. C'est bien ça.
Ça m'avait éclaté. J'ai souvenir, je crois que le premier, c'était Carl Fullerton qui avait travaillé dessus, qui est un maquilleur incroyable, qui a fait Vendredi 13, chapitre 2, qui a fait le Silence des Agneaux.
vous écoutez le maquilleur David Scherrer au micro de Culture Prohibée.
C'est plutôt le deuxième qui m'a marqué, de par le côté où vraiment là ils utilisaient les trucs de cinéma étaient vraiment utilisés dans l'intrigue. Je sais qu'à un moment il y a un mec qui veut tirer sur un autre gars, mais en fait c'est un pistolet à blanc. À un moment t'en as un autre qui traverse une baie vitrée, il est enflammé et tout, et en fait c'est une cascade et tu le vois retirer un masque en latex, le visage tout carbonisé. Et puis le début était hyper drôle. Le début était vraiment super drôle, une espèce de film de science-fiction complètement claqué, où il y avait un robot qui envoyait des missiles et tout. Et en fait, c'était très amusant, parce que la première minute, tu avais vraiment l'impression d'être dans un film de SF. Tu disais, putain, mais c'est pas du tout ce que je m'attendais à voir. Et puis tu t'aperçois qu'en fait, c'est un tournage. Et puis en fait, tu te rends compte que tout foire, et que les explosions, elles pètent pas au bon moment, que, enfin, c'est un bordel sans nom. Et ça, c'était rigolo, parce que c'était le concepteur du robot, c'est celui qui a fait les effets spéciaux du film Classe 1999, qui est un film qui est très cher à mon cœur, dans le sens série B complètement assumée de Mark Lester, et qui est un réalisateur, voilà, que moi, j'aime beaucoup de par sa générosité. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien le film FX numéro 2, à cause de ce robot au début qui me rappelle mes meilleurs souvenirs de, on va dire, de Bisseux. Et tu vois, je n'arrive pas à rester sur un film, il faut tout le temps que je digresse.
Ah, mais c'est signe de passion.
Ah ben ça oui, ah, voilà. Oui, ça me sert complètement.
D'ailleurs, ces deux films sont un hommage aux effets spéciaux live, voilà.
Tout à fait.
Aujourd'hui, bon, il y a une petite polémique là, avec Taika Waititi qui est arrivé, qui a lui-même critiqué les effets spéciaux numériques sur Thor Love and Thunder. Quel est ton regard un peu là-dessus, sur les effets spéciaux numériques, parce qu'on disait que ça allait mettre un peu au chômage les maquilleurs, et en fin de compte, la profession continue d'exister, vous vous êtes réinventé.
Oui,
quoi.
Mais complètement. Mais il y a de plus en plus de... Il y a un vrai retour aux effets spéciaux live. Tout simplement parce que les réalisateurs, ils ont besoin de voir les choses sur le plateau aussi. Je te parlais des combattants de la série 14-18, ça, quand tu fais une série télé, effectivement, que tu as des séquences avec des soldats qui courent, des grosses scènes d'action que tu mets en place, oui, les impacts de balles, tu vas les faire en numérique, parce que si tu dois refaire 10 fois la prise, tu peux pas rééquiper, mettons, une douzaine de figurants avec des charges explosives et des choses comme ça pour faire les impacts. Donc du coup, tu vas faire, mettons, 10 prises de ta séquence d'assaut, et après, numériquement, toi tu fais d'abord jouer sur le plateau les mecs, tu les fais simuler les coups de feu, ils s'effondrent et tout ça, donc ça c'est des vrais cascadeurs, et après tu rajoutes l'impact numériquement. Ce qui est là, ça facilite la vie, mais par contre, tout ce qui est effectivement cadavre, tous les effets de sang, les mecs au sol, les bras arrachés, tout ça on continue et on les fait bien sûr sur le plateau, parce que voilà, le réalisateur il les voit, il sait où placer sa caméra. Et de toute façon, faut pas se mentir, après tu vois, même s'ils critiquent les effets spéciaux, ce réalisateur de Thor, c'est des choses qui prennent de toute façon énormément de temps. Et qui coûte une fortune. Si tu veux aujourd'hui de super effets numériques, des choses incroyables, t'es obligé de casquer des millions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment on peut faire avec un peu moins, avec quelques effets visuels okay, qui seront super bien, on va mettre le paquet là-dedans, mais comment justement les utiliser dans la mise en scène pour que tu sois pas obligé d'avoir mettons, la moitié de ton film à truquer en termes d'image de synthèse. De toute façon, je te parlais avant de The Thing. Dans The Thing, il n'y a pas d'image de synthèse, ça n'existait pas. Ça obligeait les réalisateurs à penser leurs séquences en termes de découpage, avec des axes de caméra, des plans précis, qu'est-ce que tu vas filmer, réaction d'un tel, etc. Donc voilà, tu pensais ton découpage avec les effets spéciaux réels. C'est pour ça aussi que ça marche tellement bien. je pense. Tout ça, bien sûr, c'est... Voilà. C'est ma façon de voir les choses.
Je voulais juste te demander, avant qu'on se quitte, ton actualité, quoi, voilà, s'il y a des choses sur lesquelles tu travailles actuellement.
Ah ben c'est hyper drôle, parce qu'aujourd'hui sort Le Visiteur du Futur, de François Descraques, qui est un film sur lequel j'ai travaillé. Alors, je ne dis pas ce que j'ai fait, parce que c'est un peu une surprise, parce que voilà, c'est quelque chose... voilà, j'en dis pas plus. Par contre, il faut aller voir ce film, parce que c'est voilà, un film de genre français, de science-fiction. Je pense que c'est très intéressant de voir un peu ce qu'il a voulu faire avec ce genre-là. Il n'y en a pas beaucoup, donc moi, les premiers échos que j'ai eus, ben ça a l'air vraiment, vraiment bien. Donc voilà, ça sort aujourd'hui. En termes d'actu, ben, comme je disais, la série de TF1, Les Combattantes, c'est à partir du 19 septembre. Ça aussi, ça a l'air extrêmement... extrêmement chouette, extrêmement épique, tout ça. Après, voilà, je peux pas... Je ne sais pas si je peux être totalement objectif. Vraiment, ça a été un tournage incroyable et un projet incroyable. Donc, évidemment, j'ai une part perso qui va bien sûr être pour ce projet, naturellement. Et sinon, je commence le mois prochain le nouveau film d'Olivier von Hofstadt qui avait fait Dick et Mec. Et alors, je ne peux pas trop dire exactement ce que je fais comme effet dessus, mais voilà, c'est une comédie, c'est un genre pareil, c'est un genre que j'ai pas, c'est très éloigné de mes amours, du giallo et tout ça, mais c'est hyper intéressant, et ça, j'en reparlerai avec plaisir quand le film sera sorti, parce que c'est, voilà, c'est quelque chose qui mêle un peu mon amour du cinéma, mais avec la comédie.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission bien aidée par le coup de main technique de Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. Et puis, the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin qui s'occupe de l'habillage sonore de l'ensemble. Salut les gens, à la prochaine.